Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 16 juillet. Je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer de l'actualité tech avec le Mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que le matin commence doucement, tranquillement. Si ce n'est pas le cas, je suis peut-être un peu bassa. Oula, je vois que le cadrage, excusez-moi, hop, c'est un peu mieux là comme ça. Je me sens à hauteur normale. J'espère que vous allez bien, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. J'en profite pour regarder un petit peu qui est arrivé déjà dans la chatroom. Salut Techni Savoir, salut Grolf, salut Samuel, salut Jay le Barbu, salut Polychoos, salut Seven, salut Andy76, salut Mécano1966, salut Olek, salut Polair. Je crois que j'ai déjà dit bonjour, non? Non, je t'avais vu, mais je ne t'avais pas dit encore bonjour. Salut à Dithyrambic, salut Nico Dindon, salut Rassalgoul666, chez Bayou, Poppy21000, Caradoc, Grenadine Fraîche, oh, pas mal dès le matin. Salut Sinot, salut Lezinc69, salut Olivier SG, salut Perceval, yo à toi, salut Phileas. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver après une petite semaine de pause pour problématiques techniques et déplacements professionnels. J'ai un cheveu qui est affreux là. Hop. Ok. Désolée. Petit moment coiffure du matin. Le saut du lit a été un peu compliqué. Bon, sinon, pour ceux qui débarquent et qui se demandent où est-ce qu'ils ont atterri, vous êtes donc sur l'émission Le Mug, où on débriefe de l'actualité tech, mais l'actualité tech peut aborder un peu n'importe quel sujet tant qu'il y a un angle tech. Et aujourd'hui, notamment, on va parler et revenir notamment sur la tentative d'assassinat de Donald Trump. Pas que, mais évidemment, ça va être le sujet du jour. Pourquoi ? Pourquoi la tech a un rôle là-dessus ? Eh ben, il y a un angle à la fois sur le rôle des photos qui ont été prises de la tentative d'assassinat, qui ont évidemment servi de relais de communication et qui ont été largement partagées, qui ont eu un impact très très fort. Et je pense que ce n'est que le début hein, de l'impact de ces photographies. Donc ça vaut la peine de revenir un petit peu sur ces photos. Quelles ont été les photos qui ont marqué ces derniers jours de justement la tentative d'assassinat de Donald Trump lors du rallye et également l'impact sur les réseaux sociaux. Je pense que vous n'êtes pas enfermé dans un bunker ces derniers jours. C'est vrai que dès qu'on ouvrait les plateformes, les réseaux sociaux, eh ben on était assaillé un peu de messages de voilà, de théories du complot d'un côté comme de l'autre, hein, à la fois du côté républicain, mais également du côté démocrate. Enfin, il y en a vraiment à toutes les sauces. Et donc, c'est intéressant de revenir sur ces phénomènes. Voilà, donc c'est sur cet angle-là qu'on abordera l'événement, en tout cas l'actualité politique actuelle. On n'est pas là pour débattre des idées politiques, mais vraiment plutôt de traiter de l'actualité sous l'angle tech. Voilà, donc ça sera le gros sujet du jour, puisque vous l'avez vu, c'était le titre de l'émission de ce matin. Mais on ne traitera pas uniquement de cette actualité-là, on traitera également d'autres news un peu plus brèves, hein, faut quand même le dire. Elles n'ont pas la même portée. J'allais utiliser un mot qui était peut-être de mauvais goût. Et donc du coup... On va parler également des événements et de l'actualité qui a touché SpaceX dernièrement avec les fusées de SpaceX qui sont clouées au sol suite à un décollage qui ne s'est pas bien passé, plutôt en tout cas une mise en orbite d'une série de satellites qui ne s'est pas passé comme prévu et donc du coup qui a entraîné le régulateur américain de l'aviation, la FAA, de clouer au sol SpaceX. SpaceX jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête sur la sécurité des fusées Falcon 9 se terminent, soient conclues en tout cas. Et puis on parlera également e-sport hein, dans le contexte des Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas, hein, voilà, à moins de 15 jours maintenant du début des Jeux Olympiques à Paris. Eh ben, il y a également les Jeux Olympiques d'e-sport, et oui, la première édition qui vont être lancées en 2025. On parlera du coup du pays qui accueillera ces premiers Jeux Olympiques de l'e-sport, voilà. Et puis on reviendra, donc comme je vous le disais, on traitera donc de l'actualité de la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump sous l'angle des photos qui ont été prises de la tentative d'assassinat et la portée, l'impact et le traitement de ces photos, la réutilisation également de ces photos par les grands médias, tous les grands médias qui ont traité de l'événement. Il y a pas, plus particulièrement, on s'attardera sur une photo spécifique et puis sur deux autres qui ont aussi marqué les esprits. Et puis ensuite, on traitera de la tentative d'assassinat sous l'angle des réseaux sociaux. On a deux articles assez intéressants, notamment un article du Monde et un article de Numérama sur le sujet. Et puis une petite brève qui concerne également Donald Trump et les réseaux sociaux, puisque tout simplement, eh ben, c'est une petite victoire, encore une, du côté de Donald Trump, puisque les dernières restrictions concernant Donald Trump sur les réseaux sociaux du groupe Meta ont été levées. Voilà, ça y est, c'est fait depuis très récemment, depuis quelques jours. Donc les dernières restrictions sont levées et donc ça veut dire que Donald Trump va pouvoir s'exprimer comme n'importe quel candidat à la même hauteur que Biden. En tout cas, c'est le message et la justification présentée de la part du groupe Meta ici, où il disait notamment que nous pensons que le peuple américain devrait être en mesure d'entendre les candidats à la présidence sur la même base. Et donc, qui a servi à justifier justement la levée des dernières restrictions concernant Donald Trump sur les réseaux sociaux de Meta. Et puis, on terminera quand même sur des petites brèves un peu plus légères, parce qu'il faut quand même souffler un petit peu, et j'ai pas envie de vous laisser justement sur des sujets aussi lourds. Donc on parlera d'une petite brève avec notamment Apple, qui avait assoupli les règles de son App Store en début d'année, et donc qui a permis l'arrivée du premier émulateur Linux, macOS et Windows, enfin disponible sur l'App Store, et du coup qui se concentre uniquement sur des systèmes d'exploitation obsolètes, puisque ça c'est encore une règle d'Apple qui interdit encore l'émulation des OS récents et ne permet uniquement que un émulateur d'ordinateur rétro ici. Et donc du coup, c'est l'arrivée la possibilité d'installer Windows XP notamment sur iPhone, c'est désormais possible. Voilà. Et puis on terminera avec encore Apple, mais un usage assez étonnant de l'application Notes. L'application Notes, c'est vraiment une application native disponible sur l'operating system, le système d'opération d'Apple, que ce soit sur iPhone ou sur iPad ou même sur Mac hein, d'ailleurs. Et qui est pris d'assaut par les fashionistas, par les fans de mode qui cherchent à trouver l'inspiration ou en tout cas à se simplifier la vie pour trouver quelle tenue porter chaque jour et qui vont utiliser notamment l'arrivée des stickers, la fonctionnalité des stickers combinée avec l'application Notes pour pouvoir trouver en un coup d'œil avoir une visibilité en un coup d'œil de sa garde-robe et des différents looks disponibles. Donc je trouvais ça vraiment assez étonnant, encore un bel exemple de comment on peut détourner l'usage de certaines applications et de certaines fonctionnalités à son avantage pour être créatif et répondre à ses besoins. Et donc on terminera sur ce sujet-là en termes de tech. Si on a le temps, mais j'espère, je vais tout faire pour qu'on ait le temps, j'aimerais vous parler de trois séries ce matin. comme on aura parlé de sujets très lourds, très politiques, eh ben on parlera de trois séries d'époque, mais trois séries à la fois d'époque et de romance. On parlera notamment de Bridgerton saison 3, on parlera également de The Gilded Age saison 2, et on parlera de la petite dernière, la saison 1 de My Lady Jane. Voilà, donc vous avez un avant-goût, ou en tout cas un aperçu des trois séries dont je voulais vous parler. J'en ai plein d'autres à vous partager, mais je vais essayer de faire ça au compte-gouttes chaque semaine en essayant de trouver des angles et des thématiques intéressantes. Donc voilà, donc cette semaine, pour apaiser un petit peu l'actualité et vous laisser sur une note plus légère, on parlera de romance et d'époque avec ces trois séries. Donc restez jusqu'à la fin de l'émission pour discuter séries télé ensemble. On commence tout de suite la première news, la première actualité ce matin, et c'est ça concerne SpaceX avec justement la conquête de l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, on se retrouve après une série remarquable de 344 vols réussis depuis 2015. Eh ben SpaceX a connu jeudi 11 juillet l'un de ses rares échecs, et ça a été noté par CBS News. Tout simplement, SpaceX devait mettre en orbite 20 de ses satellites Starlink. Starlink, vous savez, c'est le réseau de satellites qui permet une couverture Internet dans le monde avec sous forme d'abonnement. Hein. Vous pouvez souscrire à un abonnement et c'est disponible maintenant en France. Mais une faille dans la propulsion du deuxième étage de la fusée a contrecarré les plans. Et donc, faute d'une poussée suffisante ici, les satellites n'ont pas atteint l'orbite prévue et donc ont été rattrapés par l'attraction terrestre. Donc, il n'y a aucune menace hein, pour les autres satellites en orbite ou pour la sécurité publique. Mais en tout cas, c'est un échec, en tout cas pour cette mission. Et donc, l'incident a poussé carrément le régulateur américain de l'aviation, la FAA, à demander carrément l'ouverture d'une enquête la reprise des vols sera donc conditionnée à la détermination par le régulateur américain de l'aviation que tout système ou procédure lié à l'accident n'affecte pas la sécurité publique. Donc, vous voyez que vraiment, la sécurité spatiale et dans ce domaine, on rigole pas avec les incidents et ça peut vraiment bouleverser un calendrier et les plans de société. Alors, c'est plutôt rassurant d'un côté, mais du coup, c'est une tuile pour la société SpaceX, puisqu'ils avaient un lancement quand même prévu le 31 juillet prochain pour un vol commercial qui était censé aboutir à la première sortie dans l'espace de citoyens privés. Voilà, donc pour l'instant, c'est mis en pause jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête soient publiées, accessibles. Et également, cela met un peu d'ombre, cela jette un peu d'ombre sur le partenariat avec la NASA hein, qui pourrait pâtir finalement de ce revers de SpaceX. Pour rappel, l'agence spatiale de la NASA, hein, l'agence spatiale américaine, qui utilise Falcon 9, donc la fusée de SpaceX, pour acheminer ses astronautes vers la station spatiale internationale, l'ISS, doit théoriquement y envoyer l'équipe de sa prochaine mission de longue durée, la Crew 9, le 19 août prochain. Donc pour l'instant aussi, ça sera potentiellement conditionné donc aux conclusions de l'enquête. Donc ça suppose hein, voilà, que l'enquête soit terminée d'ici là. Donc revers de médaille ici. Alors c'est la FAA qui décide de l'enquête, mais c'est SpaceX qui fera l'enquête. Oui, mais bon, ils ont quand même une obligation à mener l'enquête avec précision et diligence ici. Mais oui, merci pour la précision, Toelath. Donc voilà hein, pour la petite news, pas plus d'informations sur le sujet. Si on apprend des choses, notamment des avancées sur l'enquête, évidemment on vous en fera part. Mais voilà, donc là on a une demande d'enquête de la part de la FAA qui devra donc valider ou pas les conclusions, et SpaceX qui devra montrer patte blanche ici et enquêter du coup sur l'événement de l'incident du 11 juillet dernier. Voilà. Et puis on enchaîne avec cette fois-ci le secteur de l'e-sport. Voilà, l'e-sport qui n'en termine, enfin qui n'en finit plus de faire parler lui. Et tant mieux. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici de ce côté-là ? Eh ben, tout simplement, les premiers Jeux olympiques de l'e-sport ont été annoncés pour 2025 et notamment, on connaît déjà le pays qui va accueillir l'événement. Et ça sera l'Arabie Saoudite, voilà. Et c'est pas une seule fois, hein, c'est-à-dire que ça va pas se tenir uniquement en 2025 en Arabie Saoudite, c'est carrément un partenariat pendant 12 ans qui a été annoncé vendredi dernier par le Comité international olympique. Cette désignation est le fruit de plusieurs mois de réflexion pour organiser un événement donc distinct des Jeux classiques, hein, qui doit encore être d'ailleurs avalisé par la 142e session du Comité international olympique qui se tiendra les 23 et 24 juillet à Paris. Et voilà, donc on a quand même l'Arabie Saoudite qui se positionne ici très très clairement sur plein de compétitions, notamment le foot, la Formule 1, l'équitation, la boxe, et qui doit être officiellement désignée en fin d'année, car elle est la seule ici en compétition, comme le pays hôte du Mondial 2034 de football. C'est quand même une annonce assez importante. D'ailleurs, on a dans un communiqué le patron du Comité international olympique, Thomas Bach, qui a salué la grande expertise, pour ne pas dire unique expertise, du Comité national olympique saoudien en matière d'e-sport. Et le royaume revendique plus de 23 millions de joueurs. Ça, c'est selon le prince Abdelaziz Ben Turki Al Faisal, le ministre des sports saoudiens. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet ? C'est pas complètement étonnant, hein, que le choix se soit porté sur l'Arabie Saoudite. Le pays a quand même beaucoup investi dans le domaine, à la fois dans les différents sports, mais également dans l'e-sport. Et d'ailleurs, en ce moment même, ils tiennent la première édition de la Coupe du Monde d'e-sport jusqu'au mois d'août. Il va y avoir quand même un travail à faire, hein, par notamment la sélection d'une ville, d'un site pour la première édition des Jeux Olympiques d'e-sport, ainsi que l'élaboration d'un calendrier précis de l'événement, des titres à inclure, du processus de qualification pour les joueurs. Bref, il y a un peu tout à définir encore pour la définition de ces Jeux Olympiques d'e-sport. C'est vrai que on pourrait se poser la question, pourquoi cette nouvelle pratique, ce nouveau sport qui rentre au Comité international olympique ? Eh ben, tout simplement, c'est une vraie occasion pour les Jeux olympiques, hein, de toucher un public plus jeune ici et de les ramener et de ramener leur intérêt vers les Jeux olympiques. Les jeux représentés seront répartis en trois catégories. On a notamment les sports virtuels qui demandent donc de produire un véritable effort physique tout en étant connecté au jeu. Donc vraiment les sports virtuels, je suis nulle en gaming, donc j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête, mais genre les sports de tennis, vous allez être équipé avec des accessoires pour vraiment avoir une performance physique ici. Il y a également les simulations sportives à la manière de NBA 2K ou eSport FC. Mais également, il y a carrément des jeux de vidéo compétitifs plus classiques, hein, que l'on connaît très bien, comme Rocket League, Street Fighter ou encore League of Legends. Voilà, donc il y a vraiment trois catégories ici de jeux vidéo qui vont être représentés lors de cette édition des Jeux Olympiques d'e-sport. Un des critères de choix des différentes disciplines, ça va être également la violence, tout ça pour être sûr que aucun jeu ne rentre en conflit avec la charte olympique qui énonce les principes fondamentaux que doivent respecter les différentes disciplines. Et ça se fera au cas par cas, justement lors de l'évaluation de chaque jeu et de chaque titre. La nature des récompenses reste également à définir. Le comité international olympique doit décider si les épreuves récompenseront les vainqueurs par des trophées consacrés à l'e-sport ou bien par des médailles olympiques comparables à celles des JO classiques. On peut se demander quand même pourquoi ils ont choisi de faire un événement séparé alors que des nouvelles pratiques de sport sont rentrées dans les jeux olympiques classiques comme la danse ou le skateboard, etc. Mais voilà, en tout cas ici, c'est un événement vraiment dédié. Peut-être l'aspect virtuel a fait que ça méritait un événement parallèle. À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les organisateurs sont conscients des polémiques qui entourent la montée en puissance sportive du Royaume du Golfe. L'Arabie Saoudite est quand même soupçonnée par ses détracteurs de chercher à détourner l'attention internationale de ces violations des droits humains. Et je pense que ça fonctionne très bien, malheureusement. Mais en tout cas, Thomas Bach a assuré avoir veillé à ce que les valeurs olympiques soient respectées par ce partenariat. Est-ce que ça inclura la garantie que les structures qui seront utilisées pour l'événement protégeront les personnes qui travailleront là-dessus ? Ça reste à prouver. Mais en tout cas, il y a une vraie inquiétude ici et une vraie polémique sur l'organisation des Jeux encore dans un pays connu pour les violations des droits humains. Donc, à voir ici. En tout cas, le Comité international olympique insiste notamment sur le développement rapide du sport féminin saoudien, les réformes réglementaires garantissant une représentation féminine au sein des conseils d'administration. Évidemment, le Comité international olympique essaye d'avoir des arguments ici pour défendre le choix de l'Arabie saoudite. Voilà. En tout cas, la première édition des Jeux Olympiques d'e-sport se tiendra en 2025 en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est une vraie reconnaissance aussi de la pratique. Voilà pour cette news. On continue et on va rentrer dans le cœur du sujet ici sur l'événement et la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, qui s'est déroulé au rallye aux États-Unis et notamment sous l'angle des photos qui ont été capturées ici, donc le rallye qui se tenait en Pennsylvanie. Et donc, de nombreux photographes, évidemment, étaient sur place pour couvrir l'événement et qui faisait partie de la campagne de Donald Trump pour la présidentielle. Hein, à la fois Donald Trump et Biden sont vraiment ici sur le devant de la scène en termes de communication, de représentation dans les médias pour défendre leur programme et leur vision de la politique aux États-Unis. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de photographies qui ont circulé à la suite de tragiques événements, de la tentative d'assassinat. Et la plus connue, ou peut-être celle qui a été la plus partagée, c'est celle de Evan Vucci, qui a gagné déjà le prix Pulitzer et qui est notamment connue pour la couverture des protestations suite au meurtre de George Floyd, qui avait ébranlé l'Amérique à juste titre à l'époque. Et donc, je vous montre un petit peu la photo de Evan Vucci. C'est celle-ci, hop, que vous avez très certainement dû voir ces derniers jours. Ici, où on peut voir donc Donald Trump entouré. Il y a vraiment une forme triangulaire ici de la photo qui propulse finalement le point de Donald Trump et qui rend l'image très très forte, à la fois encadré donc Donald Trump par les agents de sécurité et également avec un fond bleu, le ciel bleu et ce drapeau américain qui se détache sur le fond. Donc, c'est vraiment cette photo qui a marqué les esprits. Je pense la photo qui a été, qui est la plus connue de cette tentative d'assassinat. Hop. Et pourquoi cette photo a eu autant autant d'impact et a été autant utilisé chez les médias. Y a des bonnes raisons ici, hein, quand on analyse un petit peu la construction. C'est une photo et les photos, encore une fois, pourquoi on en parle et pourquoi ça a été très, très utilisé, c'est qu'une photo vaut 1000 mots. Et donc, on peut voir et analyser la force et l'impact des photographies qui couvrent l'actualité et comme ce qui s'est passé récemment, comment ça peut changer l'impact ou, en tout cas, changer la perspective du public, du grand public sur un événement et accroître la portée symbolique, politique d'un événement. Et ce n'est pas la première fois, hein, à travers l'histoire, de nombreuses photographies sont très, très connues pour avoir changé et été cruciales dans le changement de l'opinion publique sur certains événements. Ça a été le cas pour la guerre au Vietnam, pour plein d'événements internationaux. Et donc, du coup, on peut aussi s'attarder un petit peu sur cette photo qui, en tout cas, va avoir un poids majeur, en tout cas, dans cette campagne présidentielle. Qu'on le veuille ou non, en tout cas, on ne peut pas nier l'impact des photos. Et donc, du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est de s'attarder un peu sur la construction de cette photo. Donc, on a carrément vraiment le photographe. On peut deviner sa position par rapport au cadrage de la photo où il est vraiment en contre-plongée ici, en regardant le président à une position plus basse, ce qui permet d'élever d'élever le président, l'ancien président américain. Et il a même une notion de statut, comme s'il était sur un piédestal. Ici, c'est le cas, puisqu'il est sur une scène pour son discours, son allocution à la foule. Et donc, du coup, il y a vraiment déjà cette notion de l'ériger en statut ici. Ensuite, il y a cette composition très triangulaire où on voit Donald Trump qui est entouré des différents agents de sécurité. Et lui, il est vraiment au centre de ce triangle. Donc, ça le positionne vraiment dans une force centrale avec du coup un mouvement triangulaire ou pyramidal qui amène le regard très naturellement vers ce point levé. Point levé, il faut reconnaître vraiment le réflexe de communication et le savoir-faire de communication de Donald Trump ici sur tout de suite retourner un événement dramatique en un événement qui va tourner à son avantage en montrant sa force et ce point levé, en tout cas sa force de communication, ça c'est certain, et ce point levé. Donc ça, c'est assez remarquable. Encore une fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais vous repasser la photo. Hop, je vous la repartage. Donc, vous voyez un petit peu la force du triangle ici avec la composition des trois agents qui l'encadrent et vraiment cette diagonale très, très forte. Et le tout, ce qui est intéressant, c'est aussi d'un point de vue de couleur. C'est assez intéressant aussi à étudier qu'en fait, on ne trouve que des couleurs dans les tons de blanc, bleu marine et rouge, qui sont évidemment les trois couleurs qui constituent le drapeau américain, que l'on retrouve également en position très forte ici pour fermer le triangle du côté droit de la photo qui va permettre vraiment de détacher et d'encadrer la tête de Donald Trump ici. On a également le rouge du sang qui perle de l'oreille de Donald Trump, qui va vraiment faire écho aux rayures du drapeau américain. Donc voilà, donc ça c'est assez remarquable en termes de poids et de force, de cadrage, de composition et de couleur de la photo, quoi. Donc c'est ce qui explique aussi le succès et la portée de cette image. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Je vous encourage à lire d'ailleurs l'article de Fast Company qui analyse un petit peu justement la composition de cette photo. Et en plus, ce qui est intéressant, et je j'ai pas mentionné la chose que je voulais vous partager, mais le dernier détail qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez noté un petit peu le phénomène, mais on est happé à l'intérieur de la photo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'agent sur la droite de Donald Trump qui regarde directement le photographe. Le photographe, c'est aussi nous, le spectateur, qui regardons la photo. Et donc, par le fait qu'il regarde directement l'objectif, on est tout de suite attiré par la photo qui nous permet de circuler et d'atteindre directement le visage de Donald Trump et de remonter vers ce point levé et ce drapeau, quoi. Donc ça, c'est en termes de circulation de l'image, c'est assez, assez intéressant aussi. Donc vraiment, c'est assez passionnant, je trouve, de pouvoir analyser ça et de comprendre un petit peu quels sont les éléments qui rendent une image aussi forte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Et donc, c'est vrai que là, on analyse, on voit un petit peu... On voit un petit peu pourquoi cette image fonctionne très bien. Et même si finalement on se dit, j'avais peut-être pas vu tout ça au premier abord, c'est quand même intéressant de comprendre un peu la mécanique de composition et les forces directrices d'une photo. Et ce qui va déterminer d'une photo qui va marquer les esprits, d'une photo qui va être oubliée. Et donc, il y a Vucci, hein, le photographe, qui a mentionné notamment l'importance de garder un sens de composition photographique et de pouvoir rester concentré lors de ce genre de situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le photographe n'a pas couvert a choisi de ne pas publier le tir en lui-même. Puisqu'il ne s'agit pas de la tentative d'assassinat en tant que telle, mais de ce qui se passe juste après. Donc, il a fait le choix, en tant que photographe, de sélectionner l'après-tentative d'assassinat et comment l'ancien président américain se relève après le tir. C'est donc un choix de couverture de l'événement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette composition ? Donc on voit la photo marque quand même l'importance pour un photographe du professionnalisme en toutes circonstances quand même, parce que c'était on peut imaginer que ça s'est passé d'abord très très vite, que c'était aussi très surprenant, dangereux également, parce que en étant sur place, mêlé à la foule, en entendant les tirs, le photographe a quand même continué son travail malgré le fait qu'il n'était pas garanti que la situation était sous contrôle, pour continuer à faire son travail qui est donc de couvrir l'actualité et d'informer le grand public de ce qui se passe. Je trouve ça assez intéressant. Ça, c'était ce que je voulais vous partager. L'article de Fast Company est intéressant parce qu'il met en parallèle avec d'autres photographies historiques qui ont marqué les esprits et qui ont aussi cette composition un peu pyramidale qui donne beaucoup de dynamisme à la photo et en tout cas qui ont cette notion de grandeur d'événement. Est-ce que dans les années à venir, on retiendra de cet événement une portée aussi historique que d'autres photos ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas nier l'impact de cette photo et les autres dont je vais vous partager sur l'influence sur la campagne présidentielle actuelle américaine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il faut se rappeler que sur le moment, il y a vraiment toujours une part de hasard sur arriver à capturer, etc. La recette, c'est vraiment de faire en rafale et ensuite, au moment de la curation et de l'édition, de sélectionner le meilleur shot, de cadrer et de travailler les couleurs pour faire ressortir la composition et le message que l'on souhaite traduire via cette photo. Mais il y a également, la capacité à choisir son positionnement. Il avait choisi donc de se positionner en dessous du président, sur cet angle un petit peu central, et de bouger de cette manière-là pour avoir cet angle. Et donc, il y a aussi ce rôle un petit peu de la photo journalistique, couvrir des événements d'actualité. Donc ça, c'est vraiment important et ça sert aussi comme relais, comme je vous l'ai dit, une image vaut mille mots. Et donc, on voit bien là, ces derniers jours, l'ampleur et la portée de ces photos, quoi. Je regarde un petit peu vos commentaires là dans la chatroom. Hop. Alors, un coup de chance, pas complètement, Florian, puisqu'on voit d'ailleurs que la photo choisie, c'est celle où Donald Trump se relève. Et ça montre qu'il a, en tout cas, a priori, eu le temps de se positionner ici pour avoir un cadrage. Et ça nécessite d'être super réactif, d'être super concentré et une part de entre guillemets, d'inconscience. Mais je pense que pour tout photojournaliste, il y a cette notion et cette relation en danger qui est assez particulière parce que il a pris le risque en effet de se repositionner pour couvrir l'événement quoi. Donc ça c'est assez important quoi à noter. Il y a un choix et un choix d'édition de discours de comment on veut raconter ce qui s'est passé ce jour-là quand on prend une photo. Alors, on peut revoir la dite photo, évidemment, je vous la remontre, c'est celle-ci. Et donc, pour rappel, le photographe, c'est Evan Vucci, ici. Donc, comme je vous le disais, il y a une composition ici pyramidale, triangulaire, avec un point levé extrêmement dynamique, et donc le cadrage avec le drapeau américain et les lignes de sang de l'oreille qui sont très marquantes quoi. J'allais dire très importantes, mais elles sont très importantes pour le message de la photo en effet. Et le regard direct de l'agent sur la droite qui interpelle le spectateur, qui l'attire dans la photo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en tout cas ce cadrage-là, il y a une espèce de comment dire, de saturation de l'espace de la photo. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'espace autour du point, comme si il allait percuter le haut de l'image pour sortir, pour casser ici. C'est assez, assez fort. On aurait pu avoir un autre positionnement où la photo aurait pu être prise en format portrait vertical en laissant du ciel bleu au-dessus et avoir quelque chose peut-être d'un peu plus apaisé, inspirationnel en ayant ce point levé vers le ciel bleu. Non, ici, le choix était de contenir le mouvement et le serrer ici pour quelque chose de beaucoup plus violent même. Bon, là, c'est mon avis, c'est mon interprétation à dessous. Mais moi, c'est ce que je vois ici, le fait que ce point soit vraiment à quelques millimètres du haut de l'image. Il y a vraiment cette notion de violence, de casser un petit peu ce qu'il y a au-dessus, quoi. Et ça, c'est assez violent comme message. Et ça reflète bien la violence de l'événement, la violence du discours politique. Et voilà. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme parti pris. Mais ce n'est pas la seule photo qu'on a pu voir et qui a été utilisée, hein. Il y en a notamment deux autres qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. L'une que l'on appelle la photo, la Anna photo, du nom de la photojournaliste qui l'a prise, je vous la montre, c'est celle-ci, voilà, qui a été prise par Anna Moneymaker. Voilà, j'ai cru son nom, c'était une blague. Anna Moneymaker, ok. Donc cette photo où là, en fait, on a ce qui s'est passé juste avant, finalement, la photo de Evan Vucci, c'est-à-dire quand Trump était encore par terre, protégé par les agents, et donc en attendant de voir si la situation était sous contrôle. Et donc, il est plaqué au sol pour le protéger. Et donc, on voit entre les jambes, en tout cas d'un agent de sécurité, la tête de Donald Trump avec, pareil, les gouttes de sang qui tombent et cette espèce de tissu rouge qui fait la continuité aussi de ces gouttes de sang visuellement. On a vraiment ça. Donc là, encore une fois, il y a une notion de construction de l'image avec cet aperçu triangulaire, la ligne de sang rouge qui guide le regard aussi vers le visage de Donald Trump et la lumière qui découpe le profil de l'ancien président américain. Et puis, la dernière image qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, qui est plus connue sous le nom de la boulette photo, puisqu'en fait, on y voit du coup la photo de la balle en tir, et ça, c'est assez, assez fou. Et cette fois-ci, c'est le photographe Doug Mills qui l'a prise. Et donc, je vous montre la photo, c'est celle-ci. Et donc là, on a fait on a remonté dans le temps. Vous avez vu avec les trois photos. La première photo que je vous ai montrée, c'est celle où Donald Trump se relève après la tentative d'assassinat. Ensuite, on a Donald Trump qui est encore cloué au sol pour le protéger lorsque ça s'est juste passé. Et là, on a la photo où on voit carrément la balle passer. Donc ça, c'est assez, assez intéressant que ce soit ces trois photos-là qui aient été beaucoup, beaucoup utilisées pour communiquer sur l'événement. Et là, c'est vrai qu'à la fois... Enfin, là, c'est un coup de chance, quoi. Je veux dire, il se trouve qu'il a pris la photo à ce moment-là. Souvent, bon, encore une fois, on parlait de rafale. Très certainement, peut-être c'est le cas. Il avait la main levée. Il avait une position où il se tournait. Voilà. C'est une photo assez marquante encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de ces trois photos qui ont été largement reprises, c'est les discours qui sont déroulés autour. On a notamment, donc évidemment, on peut célébrer ici le savoir-faire, l'expérience sur le terrain de tous les photojournalistes, hein, pas que les trois là dont on a mentionné les photos, mais de tous ceux qui étaient sur place et leur expertise à choisir la photo à publier ou en tout cas à présenter aux organes de presse pour communiquer sur la tentative d'assassinat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces images, elles ont eu aussi le rôle de communiquer sur la violence de l'événement. C'est quelque chose quand même qui... Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais une tentative d'assassinat contre un ancien président... alors, certes, ce n'est pas nouveau sur le sol américain, mais ça reste d'une violence inouïe. Et là-dessus, sans les images, le grand public... Enfin, voilà, le grand public aurait eu du mal à réaliser l'ampleur de la violence de ce qui s'est passé, l'ampleur de la violence et de l'attaque contre la démocratie américaine, finalement, ou la démocratie tout court. Et ça, c'est là aussi le rôle des images, c'est de faire prendre conscience de l'événement et de ce qui s'est passé. Et on le voit bien, justement, avec ces trois photos-là qui sont vraiment très fortes sur ce côté-là, sur cet aspect. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de la portée des photos, c'est qu'on a un article très intéressant d'Axios, que je vous encourage à lire, il est disponible dans le Flipboard de Nowtech, qui a interrogé les photographes qui étaient sur place, et beaucoup de photographes étaient très inquiets de l'utilisation de ces images pour être utilisés pour une sorte de propagande, pour notamment être au bénéfice de la campagne de Donald Trump et de servir son agenda politique. Et donc, du coup, aucun photographe n'a accepté de commenter En donnant son nom, hein, parce que, en tant que photojournaliste, ils n'ont pas forcément, c'est pas dans leur intérêt de donner leur opinion politique ici. Leur rôle, c'est de couvrir les événements. Ensuite, on avait notamment le rôle des médias américains, des médias internationaux aussi, sur le fait d'utiliser l'une ou l'autre photo pour couvrir la tentative d'assassinat. Alors évidemment, c'est important de couvrir ce type d'événement, mais dans le choix de photos prises pour illustrer, entre guillemets, la couverture de cette actualité, c'est aussi relier un certain message, une certaine perspective, un certain message porté par la photo. Et ça, c'est jouer le jeu aussi potentiellement d'une certaine campagne de communication, quoi. Alors clairement, il y a des photos qui sont vraiment ici à l'avantage de Donald Trump. Celle avec le poing levé, elle s'érige vraiment en complet contradiction avec les signaux que l'on a pu voir dernièrement de Joe Biden, où il a été accusé de faiblesse à la fois physique et mentale sur sa posture lors des débats, sur les erreurs qu'il a pu faire dans les mots employés. Et donc, du coup, cette photo s'érige en parfaite contradiction avec une vraie violence, une vraie force ici. Qu'on aime ou pas le personnage, encore une fois, là, c'est pas une question de bord politique, c'est en tout cas, en termes de communication et d'outils de communication, c'est redoutable. Redoutable. Et c'est vrai que les photographes, en tout cas interrogés par Axios, se sont posé des questions sur la portée, la responsabilité de la publication et de l'utilisation de ces images pour renforcer une certaine perspective de communication ici. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut noter, c'est mentionné dans l'article, c'est que beaucoup de journalistes aussi ont noté le climat de violence et de haine sur place après l'événement. Alors évidemment, il faut imaginer l'angoisse des personnes sur place d'avoir entendu des tirs, avoir vu l'ancien président américain être plaqué au sol potentiellement, l'avoir vu se relever touché, etc. Et donc, ça exacerbe les sentiments. Et en tout cas, les photographes ont noté que des personnes dans la foule se sont retournées vers les journalistes en les pointant du doigt avec une grande violence. Et là, ça rappelle aussi cette espèce de méfiance, cette agressivité envers les médias, ici censés couvrir les événements d'actualité. Du coup, la violence s'est retournée. Ils avaient besoin d'un échappatoire, d'un exutoire ici pour évacuer leur peur, leur sentiment très, très fort. Et ça a commencé un petit peu à se retrouver du côté des journalistes. Et donc là, les journalistes ont mentionné qu'ils ont essayé de partir très vite ici pour éviter d'être victime d'accès de violence ici quand on est dans des situations très, très floues, très... C'est là où il faut reconnaître quand même le rôle des photojournalistes sur l'importance de communiquer sur ces événements-là et la portée des photos utilisées. En tout cas, si on aborde au-delà des photos, notamment la couverture de l'événement sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Pour rappel, la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump a quand même fait un mort et deux blessés graves, tout en blessant évidemment l'ex-président américain à l'oreille. Et on sait encore très peu de choses aujourd'hui sur l'auteur des tirs, hein, Thomas Matthew Crook, hein, 20 ans, qui a été abattu par le Secret Service peu après avoir ouvert le feu, à part le fait que il avait utilisé le fusil de son père qui travaillait dans une maison de retraite, qu'il s'était inscrit sur les listes électorales peu après enfin voilà, en tant que républicain, mais avait fait un don de $15 à du côté démocrate, et donc du coup tout ça, le la moindre information a été reprise, déformée pour servir un parti ou l'autre, que ce soit républicain ou démocrate. Il y a eu de la désinformation et des théories du complot des deux côtés. Et en vraiment, on a eu des théories plus ou moins fantaisistes et contradictoires qui ont fait leur apparition en ligne. Si on analyse un petit peu plus près, sur X comme sur Facebook, les recherches les plus basiques font apparaître des messages affirmant à tort que Donald Trump est entre la vie et la mort. Et donc ça, c'est quand même assez... encore une fois, on va vraiment dans l'exacerbation des sentiments. Enfin, entre le fait qu'il a été blessé à l'oreille versus il est entre vie et la mort, c'est quand même vraiment deux mondes en termes d'information. Ou que Thomas Matthew Crook, comme je vous le disais, est un militant d'extrême gauche, alors que rien ne l'indique à ce stade et on n'a pas encore assez d'informations, et que on a des signaux un peu contradictoires dans l'un ou l'autre des directions. On a eu des photos de plusieurs hommes qui ont été présentés à tort comme l'auteur des tirs, qui continue d'être vraiment diffusé en ligne sur les réseaux sociaux comme sur Telegram, où on le sait, la modération est quasi inexistante. On a eu plusieurs images qui ont été sciemment modifiées dans un but partisan, dont un cliché montrant des agents du Secret Service, donc l'agence chargée de la protection des chefs d'État et personnalités, souriant juste après l'attaque. Imaginez bien comment cela peut être repris, détourné pour servir un agenda politique ici. Là aussi, l'événement, la tentative d'assassinat, a aussi montré les limites de Grok. Grok, c'est quoi ? Pour rappel, c'est l'outil d'intelligence artificielle générative de X qui, selon Elon Musk, est capable de traiter l'actualité en temps réel car il est alimenté par les données de la plateforme et que, a priori, Grok serait le mieux disposé pour traiter de l'actualité en temps réel. Eh bien, preuve du contraire, il a fourni dans les heures ayant suivi l'attaque des résultats complètement délirants, confondant Donald Trump avec, par exemple, la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Comment il a fait ça, j'en sais rien. Mais voilà, donc on pourra rappeler quand même à Elon Musk l'importance du travail journalistique et de l'expertise journalistique ici, pour communiquer sur des événements d'une telle ampleur. Donc c'est quand même assez, assez dramatique. Donc la tentative d'assassinat, encore une fois, générait quantité de théories délirantes venant de la gauche américaine. Des milliers de messages évoquent l'hypothèse d'un faux attentat. Mais en tout cas, ça a été à la fois de l'extrême droite et à la fois de la gauche américaine. Hein. C'est vraiment des deux côtés, on a vu des théories délirantes. Avec notamment un faux attentat, c'est évidemment bien trop tôt. Il y a une enquête qui doit être menée par des professionnels, des experts. C'est pas Madame Michu qui doit faire son enquête sur trois clichés manipulés sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Et voilà. Donc, les spéculations sont vraiment fortement alimentées. Donc, comme je disais, par le profil un peu atypique hein, du tireur, jeune homme qui ne semble pas avoir eu de compte vraiment sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même assez étonnant en 2024. Il était assez discret, il y a peu d'éléments qui nous permettent un petit peu de comprendre. C'est vrai que le New York Times le mentionnait, hein, à une époque où les gens de son âge déversent des tombereaux d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, eh ben voilà, l'auteur des tirs, Thomas Matthew Crook, n'a laissé que peu d'indices sur sa personnalité, ses convictions sur les raisons qui l'ont poussé à se rendre en voiture jusqu'à un meeting de Trump dans l'ouest de la Pennsylvanie le samedi 13 juillet pour tenter d'assassiner l'ancien président. Alors qu'en fait, il allait pouvoir pour la première fois voter pour un président américain en novembre prochain. Et donc, en fait, les seuls premiers détails sur ses orientations politiques prêtent plutôt à la confusion, puisqu'en fait, une semaine après avoir fêté ses 18 ans, ça s'est rapporté par CNN, il s'était enregistré sur les listes électorales en tant que républicain, mais avant cela, il avait fait un petit don à un groupe pro-démocrate. Je crois que le don est s'élevé aux alentours de $15. Et on sait aussi, quand on regarde ses parents, que ses parents sont enregistrés comme respectivement démocrates et libertariens. Donc, à part ça, on a peu d'informations. Un élément intéressant quand même à noter, Donc c'est selon l'ONG Gun Violence Archive, Thomas Matthew Crook, il n'a commis qu'une des 59 fusillades recensées aux États-Unis le samedi 13 juillet. Je trouve que ce chiffre est très 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 fort aussi. Il n'a commis qu'une des 59 fusillades recensées aux États-Unis le samedi 13 juillet. Voilà, je pense qu'en tant que Français, on peut se féliciter sur les règles qui encadrent le port d'armes. Mais au-delà de ça, voilà, il ne faut pas oublier vraiment ce dont on vient de traiter sur les absurdités qui sortent sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, Numérama aussi a partagé un article où vraiment, c'est un post qui a fait 2 millions d'impressions, 6 000 republications, 13 000 likes, 982 réponses. Ce sont des statistiques d'un message publié en français sur X, donc le réseau social d'Elon Musk, anciennement appelé Twitter, par l'utilisateur Camille Moscou à propos de la tentative d'assassinat de Donald Trump. L'utilisateur donc de X se fait le relais ici d'une publication issue de 4chan. Non mais déjà, comment on peut utiliser un post de 4chan pour soi-disant partager des informations sur un événement? 4chan. Alors évidemment, le post a des codes sémantiques de la théorie du complot. Incroyable révélation si cela est vrai. Mais évidemment, enfin, comment ça peut être vrai quand la source vient de 4chan? Pour rappel, 4chan, aka la poubelle du web, fonctionne sur deux leviers qui rendent toute information douteuse. Ses utilisateurs sont anonymes et un de leurs passe-temps favoris est de piéger les internautes et les médias. Déjà, ça donne le ton. Donc vraiment, et donc du coup, comme je vous disais, hein, y a des théories du complot qui vont dans un sens ou dans l'autre, mais c'est vraiment affligeant d'avoir des gens qui rebondissent là-dessus et qui vont même jusqu'à dire, même si ça ne s'est pas passé, ça aurait pu, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, genre, il y a vraiment des réponses aux commentaires qui font vraiment, genre, qui sont hallucinantes. Bref, à retenir, n'importe quel anonyme peut publier quoi que ce soit sur 4chan. Donc, vraiment, ne vous référez pas là-dessus, quoi. Enfin, je vous dis ça à vous, mais voilà, en tant que personne qui suit des émissions sur la tech, etc., vous savez un petit peu les déboires et les dérives et la désinformation qui peut s'opérer sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, c'est vraiment ridicule, quoi. Attendez que l'information soit vérifiée sur une source crédible, et même à l'idéal, plusieurs sources crédibles, avant de relayer ce genre d'information. C'est ultra important. Au lieu de céder à « j'ai un scoop », etc., encore une fois. Surtout sur l'ampleur de ce type d'événement. Donc voilà. Bref, on termine sur le traitement de la tentative d'assassinat de Donald Trump, mais on continue avec Donald Trump pour quand même mentionner quelque chose qui est important, que Meta a mis fin aux dernières restrictions qui concernaient Donald Trump. Pour rappel, il a été banni pendant 2 ans de Facebook et Instagram suite aux événements du Capitole à la suite des dernières élections présidentielles américaines. Et il avait été autorisé en janvier 2023 à revenir sur le réseau social du groupe Meta avec certaines restrictions. Concrètement, le milliardaire n'était pas restreint sur les plateformes, mais sujet à des sanctions plus rapides et lourdes, telles qu'une suspension en cas de nouvelle infraction au règlement de Meta. Et le propriétaire de Facebook et Instagram a mentionné, ces sanctions étaient une réponse à des circonstances extrêmes et extraordinaires, et elles n'ont pas eu à être déployées. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils l'enlèvent. Mais la raison principale, comme dit le communiqué, c'est « Nous pensons que le peuple américain devrait être en mesure d'entendre les candidats à la présidence sur la même base. » Et donc, du coup, c'est pourquoi ils ont levé les dernières restrictions. Voilà. C'est vraiment une brève, mais je pensais que c'était quand même, ça valait la peine quand même de vous le partager dans le cadre donc des campagnes présidentielles américaines. Voilà sur ce point. News plus légère, très rapidement, c'est une petite brève. Vous le savez, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Apple a revu ses conditions, notamment sur l'App Store, qui régit un petit peu les règles de l'App Store. Et alors qu'il s'était tenu contre les émulateurs ou les applications qui pouvaient servir d'émulateurs sur l'App Store, eh ben ça y est, ils ont assoupli les règles et UTM SE, le premier émulateur Linux, macOS et Windows, est disponible sur l'App Store. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour émuler n'importe quel système, mais uniquement des systèmes rétro, puisque c'est la condition d'Apple ici pour autoriser les émulateurs sur l'App Store. Et donc, du coup, l'application UTM SE permet d'installer un ancien système d'exploitation sur un appareil Apple. Il peut techniquement supporter des OS plus récents, mais comme je le disais, il y a des limitations matérielles, certes avec la mémoire vive, mais également Apple qui a banni cette utilisation dans tous les cas. Voilà. Donc, Apple avait assoupli ses règles suite à l'entrée en vigueur du DMA, je vous rappelle, donc le règlement européen qui oblige à ouvrir les iPhones aux concurrents de l'App Store. Et du coup, en mettant les émulateurs de son côté, Apple espère démotiver les utilisateurs qui auraient pu installer peut-être un magasin tiers, un App Store tiers, pour jouer à des anciens jeux sur leur iPhone. En tout cas, UTM SE, c'est quoi ? C'est tout simplement une version allégée d'UTM, l'émulateur réservé au Mac. Et donc, du coup, voilà, ça permet donc d'émuler des systèmes rétro. À savoir qu'au premier démarrage, vous allez voir un écran noir. Rien n'est proposé par défaut. Il ne pré-embarque aucun OS hein, pour des raisons légales. Et vous pouvez quand même trouver des fichiers de configuration disponibles sur le site Internet. Mais le service nécessite quand même de trouver un fichier disque qu'on appelle ISO par ses propres moyens. Voilà. En tout cas, après le test Numerama, ils ont quand même noté qu'il y a quand même plusieurs alertes d'iOS sur la mémoire vive qui est vite saturée sur un iPhone en émulation. Donc, à voir hein, comment ça va tourner. Mais techniquement parlant, Windows XP émulé par iOS peut faire tourner des jeux rétro. Maintenant, à vraiment tester en fonction de ce que vous cherchez à faire. Il est sans doute d'ailleurs plus agréable quand même d'y jouer sur un iPad avec un vrai clavier et souris, mais en tout cas, maintenant, c'est disponible également sur l'iPhone. Voilà pour la petite brève qui concerne du coup enfin les émulateurs de systèmes d'exploitation sur l'iPhone. On termine avec encore une fois Apple et un article très très intéressant que je vous encourage à lire de Vogue Business. On va faire un peu de mode ce matin, mais je vous rassure, toujours sous l'angle de la tech. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un article qui note comment l'application Notes est devenue l'outil de la Gen Z pour choisir ses tenues. C'est pas une blague, c'est vraiment pas ici, c'est vraiment un phénomène et je trouve ça génial. Pourquoi je trouve ça génial ? Parce que je trouve ça fascinant de voir comment les gens vont s'approprier, détourner la technologie pour l'utiliser, pour répondre à leurs besoins. Et ça, je trouve ça vraiment super excitant et remarquable et très créatif aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement l'alignement des planètes, entre guillemets, avec un besoin utilisateur qui est « j'en ai marre de galérer ». Enfin, il y a des matins, je pense qu'on a tous connu ça, il y a des matins, on a la flemme de passer quelques minutes à essayer de choisir une tenue. Moi, j'avoue, c'est quelque chose qui me saoule. Et je suis toujours là à regarder, en plus, pas réveillée, etc., à essayer de regarder mes vêtements. En plus, tout n'est pas sous les yeux parce qu'il y en a qui sont rangés ailleurs, etc. Et à essayer de trouver une tenue. Voilà, et c'est plus ou moins facile. Et puis, on se dit, ah, bah du coup, il faudrait peut-être que j'achète d'autres choses parce qu'on a oublié qu'on avait tel vêtement, etc. Donc voilà, la galère de choisir sa tenue le matin, le besoin. Et ensuite, les outils. Et donc, les outils, c'est l'arrivée des stickers sur l'iPhone. Et ça, ça a été rendu possible avec la mise à jour d'iOS 17, avec la dernière mise à jour en septembre dernier, qui permet aux utilisateurs d'iPhone de créer des stickers numériques, voilà, depuis n'importe quelle photo qui a été prise et sauvegardée dans l'iPhone. Et le sticker, ça permet de détourer finalement la personne, que ce soit une photo prise en plein pied ou un portrait, etc., de détourer la personne et de la transformer en sticker que vous pouvez ensuite aller coller dans n'importe quelle application, que ce soit iMessage, Notes, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est l'utilisation de l'application Notes, une application native disponible gratuitement sur n'importe quel appareil Apple, pour pouvoir catégoriser les styles et les looks sur lesquels vous êtes pris en photo. Donc, je vous montre un petit peu une photo de à quoi ça ressemble ici, parce que c'est quand même assez fou. Voilà, donc là, c'est une photo de Amelia Ann Kendall, de son application Note, où vous pouvez voir du coup les différents stickers où elle s'est pris en photo avec ses différents styles. Et donc elle les classifie en usage qui est les tenues de tous les jours ou les tenues de soirée, night out. Donc voilà, ça c'est une manière de classer. Mais il y en a plein d'autres. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu une petite vidéo parce que c'est encore plus rigolo à regarder sur TikTok, et des TikTok en plus qui font beaucoup, beaucoup de vues, quoi. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, et donc là, vous avez un TikTok où c'est une jeune femme qui partage, elle, sa technique. Donc, elle va classifier ses tenues par température, parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit quand elle cherche une tenue. Elle se dit, OK, il fait quel temps dehors ? Est-ce qu'il fait plus ou moins froid ? Et en fonction de ça, bah, je vais choisir ma tenue. Et donc, elle classifie de cette manière-là. Donc là, vous avez l'aperçu. Je crois qu'elle va vous montrer. Voilà. Donc là, elle se prend en photo. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de remonter. Ah, j'arrive pas à... Hop, j'essaie de vous le refaire. Vous allez voir, on va re-regarder la vidéo, mais normalement, elle vous fait la démo vraiment de comment elle utilise son iPhone, la fonctionnalité sticker et l'application Note. Est-ce que vous, dans la chatroom, vous utilisez la fonctionnalité sticker ? Donc voilà. Donc là, elle prend une photo, vous voyez qu'elle fait le sticker et hop, elle le colle dans l'application Note, dans la catégorie qui lui correspond. Donc paste, c'est coller. Tout simplement. Donc voilà. Et oui, en effet, il y a des applications natives qui font ça, comme tu le cites, King Lustor, merci, Wearing. Mais tout simplement, là, l'avantage, c'est que c'est immédiatement disponible sans avoir à télécharger une énième application, etc. Et ça, c'est assez remarquable. Et c'est un problème pour les marques, parce que du coup, les marques, ils sont très intéressés par Wearing, parce que du coup, ils vont voir un petit peu les tendances d'habits de la génération, des personnes qui font ça, et ça va pouvoir nourrir un petit peu les collections, les nouvelles collections, etc., en suivant les tendances. Or là, comme c'est fait via l'application Note, bah, c'est pas possible pour eux de récupérer ce type de données. Donc ça, c'est assez, assez intéressant aussi. Donc plus difficile à traquer. Ce qui est intéressant aussi avec l'usage de l'application Note et de documenter un petit peu les différentes tenues que vous portez, c'est que tout simplement, ça envoie aussi un message de anti-consommation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant de vous dire que vous allez acheter quelque chose, vous allez regarder un petit peu votre application et dire « Non, mais en fait, je peux faire déjà tellement de combinaisons de tenues différentes avec ma garde-robe actuelle que je n'ai pas forcément besoin d'acheter des nouveaux fringues. » Il y a eu notamment il y a eu un challenge, le 75 Hard Style Challenge, qui en fait a été popularisé par Mandy Lee sur TikTok, où elle s'est challengée à ne pas acheter d'habits pendant 75 jours parce qu'en fait, elle a réalisé combien de tenues elle pouvait faire avec sa garde-robe actuelle. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a vraiment une tendance de moindre consommation. Alors, on l'avait vu avec le vintage ou acheter des tenues déjà qui ont déjà servi la seconde main, etc. Mais là, on va encore même plus loin, qui est de par documenter les tenues, eh ben on va réaliser qu'en fait, on peut avoir beaucoup, beaucoup de variétés différentes. Et je trouvais vraiment, en tout cas, l'initiative super, super intéressante et l'usage de l'application Note super intéressante. Patitus nous dit « J'ai testé, mais je ne trouve pas d'utilité aux stickers. » Je regarde un peu... Fanny qui nous dit « J'ai un beau sticker de mes claquettes chaussettes. » Écoute Fanny, il faut assumer son style. Est-ce que ça existe sur Android ? Bonne question, je n'ai pas d'Android, donc je laisserai je pense que tu dois avoir des applications dédiées comme similaires à Wearing sur Android. Je pense d'ailleurs que Wearing doit peut-être exister sur Android, très certainement. Ce n'est pas forcément un marché que l'on peut ignorer quand on sort une application. Après, la fonctionnalité native des stickers, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de te dire. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour les news. Ah, excellent, un pseudo pas ouf. Tu nous dis, quand je faisais des travaux, je faisais des stickers, des outils dont j'avais besoin. Pas mal. Ça va donner des idées à Jérôme quand il fait des... Ce qu'il est toujours en train de... C'est intéressant, ça. Notamment pour recenser ce que vous avez. Et notamment au niveau des outils, parce que je sais que Jérôme a un peu le casse-tête d'avoir des outils qui stockent à l'atelier, ici, etc. Et donc, des fois, il faut se rappeler où est-ce qu'on a mis quoi. Alors qu'en fait, si on documentait avec des petits stickers, on pourrait se dire « Attends, oui, bah là, je l'ai amené, etc. » Mais bon, ça nécessite quand même de s'organiser là-dessus, quoi. Donc, faut aimer ça. Ça marche aussi pour la cuisine. Ah ben écoutez, pour ceux qui testent les stickers, vous me direz la semaine prochaine à quoi vous les avez, sur quel sujet vous les avez testés. Ça peut être très très rigolo d'en parler la semaine prochaine. Là-dessus, il est 9h13. Je vous propose de terminer avec un petit peu de série télé. Un petit peu de série télé, je prends mes petites notes. Hop. Il faut que je retrouve mes notes. D'ailleurs, j'utilise l'application Notes, mais pas pour faire des stickers, mais plus pour prendre des notes sur les pitchs des séries que je voulais vous présenter. Et donc, la première série que je voulais vous présenter, alors, je vous avais prévenu en introduction, pour terminer sur une note plus légère ce matin, je vais vous parler de trois séries d'époque et qui se centrent autour de romance. Voilà, donc vous êtes prévenus, mais je vous promets que la dernière vous fera vraiment beaucoup rire. Voilà, donc restez, et même si c'est pas trop votre style, franchement, la dernière est tellement décalée que ça vous fera vraiment sourire. Donc la première que je voulais vous partager, c'est sans surprise, peut-être la plus attendue, et chronique de Bridgerton. Oui, j'avoue, je me confesse, je regarde les chroniques de, enfin, la chronique de, des Bridgerton. Et donc, j'ai regardé la saison 1, qui était un peu douloureuse, la saison 2 et la saison 3, qui est sortie très récemment. Alors, la chronique de Bridgerton, donc, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Donc la saison 3 est sortie très récemment, la première partie en mai, la seconde partie en juin. C'est une série télévisée américaine qui a été créée par Chris Van Dusen, qui est tirée en fait des livres éponymes de Julia Quinn, que j'ai lu aussi, parce qu'après la saison 1, j'étais curieuse de voir si ça suivait plus ou moins les livres ou pas, et qui est donc diffusée depuis 2020. Sur Netflix. Et donc, elle a été produite par Shonda Rhimes et la série se déroule donc dans la haute société londonienne lors de la régence anglaise au 19e siècle. Et en fait, on suit plus précisément donc, la famille Bridgerton avec de nombreux enfants. Donc, il y a notamment la vicomtesse, la douairière Bridgerton, mais également ses quatre fils, Anthony, Bénédicte, Colin et Grégory, et également ses quatre filles, Daphné, Héloïse, Francesca et Hyacinthe. Alors, les saisons 1 et 2, chaque saison, en fait, se centre sur une intrigue amoureuse. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de suspense dans la mesure où on sait exactement comment ça va se terminer. Ça se termine toujours bien. Voilà, donc c'est pas vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt comment ça va se dérouler avec toutes les relations entre les différents personnages, les intrigues, les frustrations, les incompréhensions, etc. et tous les codes de la société londonienne de l'époque. Voilà, et donc du coup, la saison 1 se concentrait sur l'histoire de Daphné, la saison 2 se concentrait sur l'histoire d'Anthony, la saison 3, ici, s'intéresse sur l'histoire de la voisine et amie de longue date de la famille, Penelope Featherington, amie très proche d'ailleurs de l'une des filles, hein, Héloïse, et qui va, lors de cette troisième saison, se mettre en tête de rechercher un mari avec l'aide de Colin, l'un des fils Bridgerton, qui est aussi un ami de Pénélope et pour qui elle nourrit des sentiments. Voilà, donc ça, c'est le cœur de l'intrigue de la saison 3. Pourquoi Pénélope se met en tête d'ailleurs de chercher un mari? C'est qu'en fait, elle veut affirmer son indépendance par rapport à sa mère et ses sœurs. Elle n'en peut plus de vivre dans cet environnement où elle est constamment dénigrée, moquée, alors qu'en fait, derrière ça, elle a réussi à développer une carrière dont n'importe quelle jeune femme pourrait être envieuse ici. Je ne vais pas plus loin, ceux qui regardent Bridgerton sauront. Le twist de la série, c'est la voix off de la série, hein, avec... ah punaise, j'ai oublié. C'est Lady Whistledown, voilà. Donc, le twist de la série, c'est qu'en fait, elle est vraiment racontée par une voix off. La voix off, c'est carrément un personnage de la série, puisqu'en fait, c'est Lady Whistledown qui, en fait, écrit des chroniques et qui va dépeindre la société londonienne sous un jour pas forcément toujours très flatteur, qui va pouvoir se moquer et montrer les défauts et les dérives de la société londonienne, qui va aussi décoder un peu les jeux de manipulation de la société londonienne et aussi notamment l'enjeu de la reine Charlotte ici, qui normalement à chaque saison, donc à chaque saison c'est les saisons des bals où les jeunes prétendantes au mariage rentrent dans la société londonienne et essayent de trouver un mari bien placé. Enfin, ça va dans les deux sens. Hein. Les maris essayent de trouver aussi... les prétendants essayent de trouver une bonne à marier, entre guillemets, une femme bonne à marier. Et donc, le rôle de la reine Charlotte, c'est d'identifier le diamant de la saison et de lui donner son aval et de s'assurer qu'elle fait un mariage avantageux pour montrer un petit peu son emprise et son savoir sur la société londonienne et comme quoi elle fait un peu la pluie et le beau temps, enfin la société londonienne, la société anglaise, parce que ça va plus loin que Londres, juste, et pour asseoir un petit peu son pouvoir sur l'élite anglaise. Et donc voilà, et donc on a donc cette Lady Whistledown qui va être très ironique. Et d'ailleurs, la voix off, c'est Julie Andrews, l'actrice de Mary Poppins, avec une voix vraiment remarquable. Et donc du coup, en saison 3, on sait qui est Lady Whistledown. Donc ça, voilà, vous l'apprendrez en saison 2. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans la chronique de Bridgerton, je vous conseille de commencer au moins par la saison 2, peut-être. Mais sinon, c'est facile à rattraper, honnêtement. La saison 1, vous pouvez vous en passer, hein, franchement. Et qu'est-ce qui fait la force un petit peu de cette série? C'est à la fois donc, cette voix off, vraiment cette critique et cette analyse de la société anglaise qui est vraiment assez réjouissante, hein. À chaque chronique, elle est décortiquée par différents personnages de la série. Elle est vécue aussi par différents personnages de la série parce que certains sont touchés par ces analyses et pas forcément de manière favorable d'ailleurs. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir l'impact que ça a par le rapport et les codes sociaux de l'élite et également par des personnages hauts en couleur, vraiment incroyables par la force de caractère. Et donc, on a notamment Lady Danbury, cette espèce de veuve qui a du coup une personnage privilégiée parce qu'elle est à la fois, elle a la fortune et en même temps, elle est complètement indépendante parce qu'elle est veuve et donc, en termes de statut, ça la protège énormément. On a également la reine Charlotte qui est vraiment, enfin les actrices sont toutes formidables ici, voilà. Et puis voilà, enfin, je vais m'arrêter là. C'est vrai que l'actrice de Penelope Featherington est remarquable aussi. Il faut remarquer cette saison, elle a un charisme époustouflant. Le seul regret que j'aurais, c'est que l'acteur qu'elle a en face de lui a très peu de charisme. Vraiment, c'est assez affligeant. Mais bon, enfin, ça se voyait déjà dès la saison 1. Ils ont essayé quand même de l'étoffer en saison 3. Mais alors, malgré tous les artifices qu'ils ont essayé de mettre en scène, enfin, l'acteur n'a vraiment... Enfin, voilà, c'est mon avis très personnel, mais il a zéro charisme. Et donc, du coup, vraiment, c'est difficile, quoi. Mais bon, on prend quand même pas mal de plaisir. On prend pas mal de plaisir à suivre la série. Il y a beaucoup d'anachronismes aussi avec la musique où on va avoir une interprétation classique de titres actuels très pop. Et là aussi, ça donne beaucoup de dynamisme. On a aussi les costumes qui vont être carrément... Enfin, il y a un travail énorme sur les costumes qui vont être tous plus extravagants les uns que les autres. Et en fait, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai travail d'artiste ici, avec notamment des messages véhiculés par les coiffures, notamment de la reine Charlotte, ou les chapeaux qui sont portés par le personnage de Cressida Cowper, qui était la vilaine de service dans la saison 1 et la saison 2, et qui s'étoffe dans la saison 3, et qui est plus nuancée, et ça, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, vraiment, moi, j'ai trouvé cette saison 3 assez intéressante à suivre, la plus intéressante à suivre, je dirais. Alors, la saison 2 était intéressante parce que l'alchimie entre les deux personnages principaux était la plus belle alchimie qu'on a pu suivre dans la série jusqu'ici, pour être honnête, avec tous les deux énormément de charisme, les deux acteurs. Donc, ça fonctionnait extrêmement bien. On sentait vraiment une vraie complicité à l'écran qu'on sent beaucoup moins, finalement, dans la saison 3, malheureusement, parce que, Penelope Featherington, ou en tout cas l'actrice Nicola Coughlan, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme qui n'est pas... Elle n'a pas son pendant masculin de l'autre côté. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça, si vous avez envie de vous faire... une petite pause époque et gossip, un peu le gossip girl d'époque, d'ailleurs c'est un peu ça, hein, puisqu'on on retrouve cette voix off, etc. Je vous encourage à aller voir la chronique de Bridgerton, où vous allez passer un bon moment, ne serait-ce que pour les personnages secondaires qui sont vraiment irrésistibles. Vraiment irrésistible. Les tirades et les punchlines de Lady Danbury, voilà, on a notamment aussi un couple qui s'élèvent dans la société et qui essayent de trouver ces marques, qui s'élèvent d'ailleurs de manière inattendue. Donc, ils sont assez surpris, perturbés, et ils vont devoir retrouver des repères. Et donc, vraiment, voilà, c'est apprendre à naviguer un peu les codes de la société ici sur ce qui est acceptable, pas acceptable, comment interpréter certains signes. Je trouvais ça assez, assez intéressant. Et ça revisite évidemment les rapports entre les différentes couches de la société et entre les femmes et les hommes aussi. Autre saison d'époque, mais là, cette fois-ci, ça se passe principalement aux États-Unis, évidemment, même si les États-Unis regardent toujours un petit peu ce qui se passe dans le vieux continent et notamment donc en Angleterre. Mais c'est The Gilded Age. Alors attendez, je vais vous retrouver ça. The Gilded Age, hop, voilà. The Gilded Age saison 2. C'est une série HBO Max qui est disponible si vous avez pour certains abonnements Canal+, certains abonnements qui couvrent pas mal de séries. Ou si vous prenez l'abonnement HBO Max dans Amazon directement. Donc, c'est pour ça, à voir où est-ce que vous voulez regarder. C'est une série américaine de Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, hein, ni plus ni moins, voilà, et qui va donc vraiment se dérouler pendant l'âge d'or aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, qui suivit la reconstruction à la suite de la guerre de sécession 1861-1865. Donc vraiment, c'est la fin du 19e siècle, après cette guerre-là, et donc vraiment où la société américaine revit ici. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs, pour les fans de séries, trois actrices ici phares que l'on ne peut pas oublier. On a notamment une actrice que vous avez pu croiser dans Sex in the City, qui était mon personnage préféré d'ailleurs. Celle qui est tout à gauche, dont j'ai oublié le nom, mais que je vais peut-être retrouver là. Non, hop, hop, hop. Non, hop. Je ne vais pas avoir les infos. Mais bon, Non, j'ai pas son nom. Tout à droite, c'est celle qui est dans Sex and the City. Celle au milieu central, elle était dans The Good Wife et la personnage principale de The Good Fight. Elle est excellente. Et la dernière de l'autre côté, pareil, elle était dans The Good Fight. Donc, excellente actrice. Donc, vraiment, déjà, vous voyez un petit peu le casting ici. Vous avez une autre actrice que l'on voit moins, qui était également dans The Good Fight, qui est derrière, qui jouait aussi le rôle de Miranda, c'était ça, pour Sex and the City, tout à fait. Mais vous avez aussi une autre des avocates de The Good Fight qui est derrière, et c'est assez rigolo de la voir en époque aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'excellents acteurs dans cette série. Encore une fois, vous allez suivre la société, la haute société américaine. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que vous avez vraiment un combat avec la vieille garde, c'est-à-dire ceux qui tiennent leur richesse de titres historiques, et puis ceux qui sont les nouveaux riches, qui, grâce à des fortunes faites dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, ont accès finalement tout au faste et à la haute société américaine. Et donc, du coup, il y a un peu ces deux mondes qui se percutent, qui se toisent avec ces nouveaux riches qui essayent désespérément de se faire accepter par la noblesse, entre guillemets, et la noblesse qui essaye de conserver finalement son statut. Et donc, vraiment, voilà. Donc, vous allez suivre notamment le couple, les époux Russell, qui sont donc des nouveaux riches, que vous voyez d'ailleurs les deux personnages complètement à droite de l'illustration. C'est vraiment le couple Russell qui sont eux, qui font partie donc de ces nouveaux riches, et les deux femmes, les deux actrices que vous voyez complètement à gauche, qui sont deux sœurs qui, elles, font partie plutôt de l'élite traditionnelle américaine. Et donc voilà, c'est vraiment tout ça. Il y a également une question de génération, parce que vous allez avoir les enfants des uns et des autres qui vont se placer, avec des enjeux, encore une fois, de mariage, de titres, de pouvoir, etc. Et dans cette saison 2, c'est quoi l'intrigue principale? Eh ben, l'enjeu central de la saison tourne autour de l'ouverture du Met. Donc ça, je trouve ça assez chouette, le Metropolitan Opera de New York, qui va être financé par les nouveaux riches. Nouveaux riches qui vont se venger de ne pas avoir accès à des loges dans la Brooklyn Academy of Music, qui est normalement le point de rendez-vous culturel de l'élite américaine, mais qui est refusé justement aux nouveaux riches. Et donc, par vengeance et pour se faire une place, les nouveaux riches vont donc financer le Met, l'ouverture du Met. Au-delà de ça, c'est pas la seule intrigue, il y en a évidemment plusieurs, mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, même si ça reste toujours traité de manière très légère, un peu trop à mon goût, parce que je trouve ça particulièrement passionnant, mais il y a quand même la évocation de deux grands enjeux majeurs aux États-Unis, c'est la montée contenue malheureusement dans le sang par le patronat du mouvement ouvrier. Donc on a vraiment ça avec le droit des travailleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, notamment avec la famille Russell, qui a donc tiré sa fortune des usines, etc., et de certains investissements aux États-Unis. Et donc, il va devoir gérer cette montée du mouvement ouvrier. Et on a également, de l'autre côté, l'enjeu du racisme, surtout après la fin de la reconstruction, et qui reste encore très, très ancré, finalement, très vécu, avec des personnages que vous voyez dans la série qui ont été des esclaves. Et donc ça, c'est très intéressant aussi comme sujet, et qui va être traité sous l'angle du personnage qui rêve d'être une journaliste et qui est noire, afro-américaine, et on va suivre un petit peu son parcours où elle va être amenée à aller voyager dans des États du Sud, et qui va, de sa position finalement privilégiée vivant à New York, qui va avoir un aperçu de la violence qui peut naître et qui est encore fortement ancrée dans les États du Sud. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Malheureusement, traité de manière très, très légère, mais c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. Donc voilà, là encore une fois, il y a des caractères, enfin, des personnages avec beaucoup de charisme ici. Donc voilà, pour rappel, The Gilded Age, disponible donc via HBO Max et donc du coup via un abonnement soit via Canal+, soit Amazon. Sur Max, il n'y a que la saison 2. Vous l'avez en VOD, mais du coup, il va falloir l'acheter pour la saison 1. Ouais. Moi, j'avoue, je l'avais vu quand c'était disponible gratuitement sur Amazon Prime à l'époque. Maintenant, ils ont créé un autre abonnement. Mais ouais. Donc voilà. Et la dernière série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est My Lady Jane. Donc encore une fois, on est sur une série d'époque. Une série d'époque avec de la romance. C'est une série qui a été tirée du roman de Brody Ashton, Cynthia Hand et Jodie Meadows. Et tout simplement, en fait, la série réécrit l'histoire. Donc, c'est vraiment ici une uchronie. C'est assez particulier. Hein. Donc, on est ici sur une uchronie qui imagine un autre destin pour son héroïne Jane Grey dans un récit qui mêle comédie, romance, aventure et fantaisie. Donc là, on est vraiment, là, c'est la seule qui va aller aussi loin dans l'humour, dans le décalage, dans la fantaisie. Donc c'est vraiment ici une autre proposition qu'on a. Pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à aller lire l'article de la série My Lady Jane sur VL Media, qui est vraiment excellent pour décrire la série. Moi, je l'ai écouté via le podcast Season 1 et la personne qui l'a présenté a également écrit l'article qui est très, très, très bien. Et donc, petit retour en arrière sur le contexte de la série. La véritable histoire ici, normalement, c'est en 1553, tout juste mariée, Jean Grey devient reine d'Angleterre à la mort de son cousin Édouard VI Tudor. Comme elle, Édouard est fidèle à l'Église anglicane, protestant, et donc là, Édouard a choisi et préféré choisir sa cousine Jean Grey par rapport à ses deux sœurs, Elizabeth, mais surtout Mary, qui, elle, est catholique. Donc, Jean Grey, à la mort donc, de son cousin, est couronnée le 10 juillet 1553 et elle est renversée 9 jours plus tard par Marie et ses partisans. Marie, donc la sœur de l'ancien roi. Et donc, du coup, elle deviendra la reine que l'on surnomme la reine de 9 jours. Elle est reconnue coupable de trahison et décapitée aux côtés de son mari. Elle avait alors 17 ans. On meurt jeune à l'époque. Et donc, du coup, ici, on est vraiment sur le postulat de départ de la série. Vous avez carrément une petite intro, ici aussi, avec une voix off très importante, puisqu'elle va, elle va prendre un parti pris complètement actuel dans le ton. Elle va vraiment utiliser, exemple, tout l'introduction du premier épisode est sur vous raconter l'histoire réelle d'Angleterre, avec qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et donc, ensuite, on a le narrateur qui dit « fuck that ». Donc, on s'en fout, enfin, en langage plus fleuri. Et si on changeait l'histoire ? Et là, du coup, on rembobine les événements et on retrouve Jean Grey avant qu'elle soit mariée. Et on la suit au moment où on va lui présenter son futur époux. Et donc, du coup, on va avoir vraiment une uchronie revendiquée, plein d'anachronismes. Complètement revendiqué, à la fois avec donc, le langage fleuri utilisé à tout moment, à la fois avec la musique utilisée très rock, très dynamique, très rock-pop, hein, très dynamique, et également par le jeu des acteurs exagérés qui tombent vraiment dans la comédie anglaise ici. Alors attention, il faut aimer, moi j'adore ça. On s'est surjoué, mais intentionnellement, pour la touche de comique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, vous allez suivre les péripéties de Jean Grey principalement, de sa famille, de son prétendant, du roi aussi, Édouard VI, qui est donc malade, en mauvaise posture, en mauvaise santé. Il n'est pas encore mort quand la série se déroule. Et d'ailleurs, il ne meurt pas. Il y a aussi ce changement-là. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a également la touche de fantastique. Et comment se traduit cette touche de fantastique ? Eh bien, elle se traduit en... Ben voilà, je vais vous donner un aperçu un petit peu du ton de la série avec le pitch du livre, la quatrième de couverture, où on vous décrit un petit peu le livre et l'histoire. Donc, la quatrième de couverture, c'est Édouard est le roi d'Angleterre. Accessoirement, il est aussi mourant. Jane, sa cousine, est sur le point de se marier et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne lui fait pas plaisir. Guy Ford est son futur époux. Il est également un cheval, la moitié du temps. Il fait partie des Edians, ces individus capables de se transformer en animaux. Pris au piège d'un complot qui les dépasse, ils vont devoir s'allier pour sauver l'Angleterre et leur tête. Donc voilà, là vous avez vraiment, avec la quatrième de couverture, un extrait du ton employé tout au long de la série, au moins par la voix off. La voix off qui va vraiment vous accompagner tout au long de la série, d'ailleurs. Et donc, vraiment, c'est vraiment le ton. La série est vraiment comme ça. Et donc, c'est assez rigolo. Ça ne se prend pas vraiment complètement pas au sérieux. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est avec ce parti pris où il y a des personnages qui se transforment en animaux comme ça, on peut pardonner et complètement accepter les fantaisies historiques ou les choses historiques qui ne sont pas complètement proches de la réalité. Parce qu'en fait, du moment où des gens se transforment en cheval, en renard ou en cresserelle, vraiment, on peut accepter à peu près tout. Et donc, du coup, vraiment, c'est assez délicieux le décalage utilisé tout au long de la série. Donc vraiment, voilà, je trouvais ça rafraîchissant. Vraiment rigolo, il y a moi des moments qui m'ont vraiment fait sourire, et il y a un côté aussi girl power où l'héroïne va vraiment prendre son destin en main pour s'émanciper, pour construire son futur. Et voilà. Et donc ça, c'est assez, assez dynamique. Il y a aussi cet aspect-là hein, dans le personnage de Penelope Featherington, dans la chronique de Bridgerton aussi. On a également cet aspect-là, même s'il est moins revendiqué, dans la nouvelle génération du côté de The Gilded Age, les enfants qui vont essayer de trouver quelle serait la vie qu'ils souhaitent mener. Voilà. Mais là, vraiment, avec cette série, on est vraiment dans un pur produit de série anglaise avec un humour complètement décalé british, avec un cocktail qui fonctionne très bien, d'anachronisme, de musique dynamique, de personnages d'acteurs qui surjouent avec le côté dramatique et comédie accentué et qui fonctionne à merveille. Voilà pour la présentation de cette série. Donc, une saison disponible. Je crois que les épisodes sont relativement courts. Un peu moins d'une heure, hein, quand même. Et en termes d'acteurs, vous allez retrouver des acteurs que vous avez déjà vus, peut-être. Notamment lui. Voilà, Seymour. Est-ce qu'il y a le nom de l'acteur ? Non. Mais voilà. Attendez, je vais peut-être le retrouver ici. Non. Mais voilà pour la série My Lady Jane. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Aucun historien n'a subi de mauvais traitements dans cette série, mais ils sont en dépression. Il y a Max sur Canal+, oui. Oui. En fait, Canal+, tu sais, ils ont fait pas mal, ils ont une stratégie, ils ont fait pas mal de partenariats avec Netflix, OCS. Enfin, ils ont carrément racheté, je crois, le catalogue OCS, etc. Et donc, du coup, avec certains abonnements Canal+, tu peux bénéficier aussi inclus de l'abonnement HBO. Nous, on s'est aperçu de ça, qu'on avait accès à tout le catalogue HBO qui était arrivé courant mai ou juin. Oui, Olek, tu fais bien de le mentionner pour My Lady Jane. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire sur les personnes qui se transforment en animaux et donc ce conflit. En fait, toute la série est centrée sur le conflit entre les Zethians et les Verities, ceux qui se transforment en animaux et ceux qui ne peuvent pas. Et en fait, c'est un peu une métaphore pour le protestantisme et le catholicisme, ou plus largement, finalement, contre les minorités, sur les minorités, et sur cet appel à la haine qui est tourné en ridicule dans la série, et vraiment bien fait. Et donc, c'est vraiment une critique de cette haine de la différence qui est assez intéressant. Et donc, sous le couvert d'une série légère, une comédie anglaise, bah, finalement, elle arrive à aborder des sujets assez intéressantes et avoir un peu une satire, finalement, de ce genre de d'appel à la haine. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien, bien foutu. Tout à fait. Et notamment, oui, tout à fait, il y a un des personnages qui est donc un Athians, qui se transforme, mais qui n'accepte pas cette condition et qui le traite comme si c'était une maladie, qui va désespérément chercher à se soigner. On peut voir des parallèles avec beaucoup, beaucoup de choses ici. Cette obsession de soigner des différences, qui est une quête perdue et ridicule, voilà, et qui au lieu de mener à l'acceptation de soi et des autres, de ceux qui sont différents, quoi. Donc voilà, donc sous couvert d'une série humoristique, eh ben en fait on a quelque chose qui a un message plus profond, mine de rien, et qui fait du bien en ces temps fortement polémiques. Voilà, il est 9h44, je suis grave à la bourre. Mais je vous avais promis de parler de séries. Donc voilà, je vous ai parlé rapidement de ces trois séries. J'espère que vous allez y trouver votre compte. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Avant de vous abandonner, je vais quand même vous rediriger vers un petit live pour voir un petit peu qui on a de beau aujourd'hui. Eh ben, on va aller faire... Voilà, on a fait un moment série. Eh ben, on va faire un moment musique avec Flonflon. Voilà, voilà. Sur ce... Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis sinon, vous retrouvez Jérôme à partir de jeudi à 8h tapante. Très bonne journée, très bonne semaine et à très vite.